Chapitre 26. Les miroirs. On ne devrait pas davantage laisser les miroirs accrochés au mur qu'on ne laisse traîner son carnet de chèques ou des lettres avouant d'odieux forfaits. Virginia Woolf. J'ouvre les yeux. Je reconnais la chambre. Blanche, minérale, intemporelle. Un sol en pierre de lave, des murs immaculés, une armoire et un petit bureau en bois peint. Des volets intérieurs à larges lames qui distillent une lumière rasante. Une décoration qui rappelle davantage le confort d'un hôtel que l'ascétisme d'une chambre d'hôpital. Je sais parfaitement où je suis. Chambre 6, Sebago Cottage Hospital, près de Portland, dans le Maine. Et pourquoi j'y suis? Je me redresse sur l'oreiller. J'ai l'impression de me trouver dans un no man's land sensoriel, telle une étoile morte, éteinte depuis longtemps, mais émettant encore de la lumière. Peu à peu, pourtant, je retrouve toute ma conscience. Mon corps est reposé, mon esprit s'est délesté d'un poids, comme après une longue plongée cauchemardesque qui m'aurait fait traverser les palais de la nuit, des songes et du sommeil, combattre le Cerbère et terrasser des furies, avant de remonter à la surface. Je me lève, fais quelques pas pieds nus jusqu'à la baie vitrée et ouvre la fenêtre. La bouffée d'air glacé qui s'engouffre dans la pièce me régénère. Le panorama qui s'offre à mes yeux est à couper le souffle. Entouré d'une forêt de sapins aux versants raides, le lac Sebago étend ses eaux cobalt sur des kilomètres. Un véritable écrin d'azur au milieu des conifères. Une roche immense en forme de château fort culmine au-dessus des flots sur lesquels s'avance une jetée en rondin. Bonjour, mademoiselle Schaeffer. Surprise, je me retourne brusquement. Assise dans un coin de la pièce, une infirmière d'origine asiatique m'observe en silence depuis plusieurs minutes sans que je l'aie remarqué. J'espère que vous vous sentez bien. Le docteur Kane vous attend près du lac. Le docteur Kane? Il m'a demandé de vous signaler sa présence dès votre réveil. Elle s'approche de la fenêtre et désigne un point à l'horizon. Je plisse les yeux pour apercevoir Gabriel, les mains plongées dans le capot ouvert de la Shelby. De loin, il m'adresse un signe de la main, comme une invitation à le rejoindre. Dans le placard, je retrouve la valise que j'ai emportée avec moi. J'enfile un jean, un pull chiné, un blouson, une paire de grosses chaussures, et je sors par la baie vitrée. Je me laisse porter, hypnotisé par le bleu profond de la surface du lac. À présent, tout est clair dans ma tête. Les souvenirs sont ordonnés, rangés dans les classeurs de ma mémoire. D'abord, le diagnostic alarmant de Clouseau, l'évocation par Seymour de l'existence du Sebago Cottage Hospital, ses démarches pour me faire admettre dans l'institution, mon départ pour les États-Unis, mes premiers jours à la clinique, l'implantation d'un pacemaker cérébral suivi d'une crise de panique, le déni puissant de ma maladie, mon évasion de l'hôpital, ma lutte avec le gardien, ma fuite vers New York, jusqu'à ce banc de Central Park. Puis cette rencontre insolite avec ce drôle de type, Gabriel Kane, qui m'a accompagné sur le chemin escarpé de cette journée insensée. Un jeu de pistes, au cours duquel mes terreurs les plus profondes ont refait surface. Le spectre d'Eric Vaughan, la perte de mon bébé, le traumatisme de la mort de Paul, mes doutes sur la loyauté de mon père et de Seymour, et, toujours, le refus d'admettre mon état de santé, jusqu'à me persuader de m'être réveillé le matin du 8 octobre, alors que nous étions une semaine plus tard. « Bonjour Alice, j'espère que vous avez bien dormi », me lance Kane en refermant le capot de la voiture. Il porte un pantalon cargo à poches multiples, un gros ceinturon, un cardigan en maille côtelée. Sa barbe est drue, ses cheveux en bataille, ses yeux cernés et brillants. Les traces de cambouis qui marquent son visage comme des peintures indiennes le font davantage ressembler à un garagiste qu'à un médecin. Alors que je reste silencieuse, il tente d'engager la conversation. Je suis désolé pour la seringue d'anesthésique plantée dans votre cou. C'était le seul moyen de vous faire rejoindre les bras de Morphée. Il attrape la cigarette coincée derrière son oreille et l'allume avec un vieux briquet en pète. Je sais désormais que cet homme n'est pas Vaughan. Mais qui est-il vraiment? Comme s'il lisait dans mes pensées, il me tend une main luisante de cambouis et de graisse. « Gabriel Kane, psychiatre !» se présente-t-il de façon formelle. Je refuse de le saluer. Jazzman, magicien, agent spécial du FBI, psychiatre, vous êtes le roi des mythos, oui? Il esquisse un sourire grimaçant. Je comprends que vous soyez en colère contre moi, Alice. Pardon d'avoir abusé de votre crédulité, mais cette fois, je vous le promets, je ne vous mens pas. Comme souvent, je sens que la flic en moi reprend le dessus et je le bombarde de questions. J'apprends que c'est son ancien associé, Thomas Krieg, le directeur de la clinique, qui lui a demandé de me retrouver à New York et de me ramener ici. Mais pourquoi avoir prétendu être pianiste de jazz? Pourquoi Dublin? Pourquoi les menottes, le ticket de consigne, les inscriptions sur ma main? Pourquoi tout ce bordel? Il exhale une longue volute de fumée. Tout ça participait d'un scénario écrit dans l'urgence. Un scénario. La mise en scène d'une sorte de jeu de rôle psychanalytique, si vous préférez. À mon regard incrédule, Gabriel comprend qu'il faut m'en dire plus. Il fallait que vous cessiez d'être dans le déni de votre maladie, que vous vous confrontiez à vos chimères pour vous en libérer. C'est mon métier, reconstruire les gens, essayer de remettre de l'ordre dans leur esprit. Et vous avez inventé ce scénario comme ça? J'ai essayé d'entrer dans votre logique, dans votre façon de penser. C'est la méthode la plus efficace pour établir un contact. J'ai improvisé au fur et à mesure, en fonction de ce que vous me racontiez et des décisions que vous preniez. Je secoue la tête. Non, ça ne tient pas debout, c'est impossible. Il me lance un regard franc. Et pourquoi donc? Dans ma tête, la journée de la veille défile en accéléré. Puis des images se figent, suscitant autant de questions. Les chiffres de sang sur votre bras. Je les ai gravés moi-même avec un couteau suisse. J'ai du mal à croire ce que j'entends. Le reçu de consigne du Greenwich Hotel. C'est là où j'ai passé la nuit après un congrès. La mallette électrifiée? La mienne? L'alarme et la décharge électrique se déclenchent automatiquement dès que la mallette est éloignée de plus de 25 mètres de la télécommande radio. Le GPS dans ma chaussure. Tous les patients de la clinique portent un GPS dans une de leurs semelles. C'est une formalité qui se généralise dans les hôpitaux des États-Unis pour les malades souffrant d'un trouble lié à la mémoire. Mais vous aussi, vous portiez un mouchard. Je revois la scène de façon nette. Devant la friperie, Gabriel en train de projeter sa converse dans une poubelle publique. Je vous ai dit que j'en avais trouvé un, mais vous ne l'avez pas vu, et vous m'avez cru sans vérifier. Il contourne la voiture, ouvre le coffre et en sort un cric, puis une clé en croix pour changer la roue crevée de la Shelby. Je reste stupéfaite de m'être laissé abuser. Mais toute cette histoire avec Vaughan. Je cherchais un moyen de nous faire quitter New York, explique-t-il en s'accroupissant pour retirer l'enjoliveur de la roue crevée. J'ai lu dans votre dossier ce que Vaughan vous avait fait subir. Je savais qu'en vous aiguillant sur sa piste, je pourrais vous faire aller n'importe où. Je sens la colère monter en moi. Je serais capable de me jeter sur lui pour le rouer de coups. Mais avant, je veux être certaine de bien comprendre. Les empreintes sur la seringue, c'était les vôtres, bien sûr. Vaughan est mort. Oui. Si votre père vous a dit qu'il était 6 pieds sous terre, il n'y a aucune raison de remettre en cause sa version. Je garderai ce secret, bien sûr. D'ordinaire, je ne suis pas un adepte de l'autodéfense, mais dans ce cas, qui pourrait le lui reprocher? Et Seymour? Krieg lui a téléphoné pour lui demander de collaborer avec nous. Plus tard, je l'ai appelé moi-même pour l'inciter à vous livrer de faux indices et à vous orienter vers l'hôpital. Quand? Nous avons toujours été ensemble. Il me regarde et secoue la tête, les lèvres pincées. Pas toujours, Alice. À Chinatown, j'ai attendu que vous soyez sortie de la boutique pour demander au prêteur sur gage la permission de passer un appel. Plus tard, devant le jardin communautaire de Hell's Kitchen, vous êtes resté dans la voiture pendant que vous pensiez que j'appelais mon ami Kenny d'une cabine téléphonique. Avec sa clé en croix, il se met à desserrer les boulons qui tiennent la roue tout en continuant sa litanie. À la gare, pendant que j'achetais nos billets, Une adorable grand-mère m'a laissé passer un appel avec son cellulaire. À Astoria, lorsque vous preniez votre bain, j'ai eu tout le temps d'utiliser le téléphone du bar à chicha. Enfin, alors que nous étions sur la route, je vous ai abandonné une bonne dizaine de minutes avec Barbie, sous prétexte d'aller acheter des cigarettes.
Et pendant ce temps, vous étiez en ligne avec Seymour ?
C'est lui qui m'a aidé à être crédible dans ce rôle d'agent spécial du FBI. Le coup du cadavre dans cette usine sucrière, où il n'a bien sûr jamais mis les pieds, c'était son idée.
L'enfoiré.
Il vous aime beaucoup, vous savez. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un ami comme lui. Il insère le cric dans l'encoche et mouline pour lever la voiture de quelques centimètres. En le voyant grimacer de douleur, je me rappelle lui avoir donné la veille un coup de couteau qui a dû lui occasionner une plaie musculaire assez profonde. Mais je ne suis pas d'humeur à m'attendrir.
Et mon père ?
Ah, lui, c'était mon inquiétude. Pas certain que le grand Alain Schaeffer accepte de jouer le jeu. Heureusement, Seymour lui a opportunément subtilisé son téléphone. J'encaisse les coups comme un boxeur acculé dans un coin du ring. Mais je veux savoir. Tout savoir. L'appartement d'Astoria ? Votre ami, Kenny Forrest ?
Kenny n'existe pas. J'ai inventé cette histoire de jazzman parce que cette musique me passionne.
Quant à l'appartement, c'est le mien.
À ce propos, vous me devez une bouteille de Latache 1999. Je me réservais cette Romane Conti pour une grande occasion.
À son habitude, il pense que l'humour va apaiser ma colère. Il me provoque, cherche à me faire sortir de mes gonds.
Vous pouvez vous la carrer où je pense, votre bouteille. La propriétaire de l'immeuble, Madame Chaouch, pourquoi ne vous a-t-elle pas reconnu ?
Simplement parce que j'avais appelé depuis la gare en lui demandant de ne rien laisser paraître. Il dévisse complètement les boulons, retire la roue crevée avant de compléter son explication. Agatha, l'assistante de Krieg, était passée quelques minutes plus tôt pour faire disparaître tout ce qui aurait pu m'identifier. Des photos, des dossiers, des factures.
Oh, j'ai très mal à l'épaule. Vous pouvez me passer la roue de secours ? Et vous, vous pouvez aller vous faire foutre ? Parlez-moi de la cabane dans les bois.
Gabriel fait un pas de côté, vérifie son bandage sous son cardigan et sa chemise. L'effort a dû faire saigner la plaie, mais il serre les dents et attrape la roue de rechange.
La cabane, c'est celle du vrai Caleb Dunn. Et c'est moi qui ai demandé à Agatha de clouer sur la porte les trois photos que j'avais aperçues dans votre portefeuille.
La Shelby est à vous aussi, j'imagine ?
Je l'ai gagnée au poker lorsque j'habitais à Chicago, dit le psychiatre en se relevant et en s'essuyant les mains.
L'écouter, mais insupportable. Je me sens rabaissé, humilié.
En me menant en bateau de la sorte, Gabriel m'a enlevé la dernière chose qui me restait, la certitude d'être encore une bonne flic.
J'avoue que j'ai eu de la chance, nuance-t-il. À deux reprises, vous avez failli me démasquer. D'abord, lorsque vous avez insisté pour vous rendre avec moi au laboratoire d'hématologie médico-légale et y déposer l'échantillon de sang.
Je ne suis pas certaine de bien comprendre. Je le laisse poursuivre.
Je connais bien Eliane. La clinique travaille avec son labo depuis longtemps. Je n'ai pas eu le temps de la prévenir, mais elle ne m'a jamais appelé docteur devant vous.
Je ne goûte guère l'ironie de l'anecdote.
Et la deuxième fois ?
Votre collègue, Maréchal. Là, on est vraiment passé à deux doigts de la catastrophe. D'abord, j'ai eu du pot qu'il ne soit pas au courant de votre arrêt de travail. Ensuite, lorsqu'il a effectué sa requête sur les caméras de surveillance, il s'est contenté de le faire en entrant le numéro de votre plaque d'immatriculation. S'il vous avait écrit dans son mail que les photos dataient d'une semaine, j'étais foutu.
Je hoche la tête. Une colère folle monte en moi, une rage impossible à canaliser. Un torrent de révolte et d'injustice qui prend possession de mon corps. Je me baisse pour attraper la clé en croix. Je me relève. Me dirige vers Gabriel et, de toutes mes forces, je lui assène un grand coup dans le ventre.